Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
14h05 sur RMC et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour. Plus de 400 000 couples se séparent chaque année en France. Divorce, rupture de pacte ou d'union libre, ces séparations se passent plus ou moins bien. Mais alors Rémi, quelles sont les principales raisons de ces séparations et surtout comment se font ces ruptures?
Alors en tête des motifs rédhibitoires, il y a évidemment la tromperie. Oui, l'infidélité, là ça ne marche pas. Donc c'est le principal motif de séparation, mais au quotidien, il y a d'autres raisons qui peuvent ruiner une relation. À ce sujet, il y a un récent sondage réalisé par le site de Faire Parterie. Selon les personnes interrogées, ce qui peut tuer l'amour dans un couple, c'est surtout
l'éloignement,
l'infidélité.
Le manque. Non, mais ça oui, l'infidélité.
Le manque de dialogue.
Le manque d'hygiène. Oh, si. Cité dans 81% des cas, viennent ensuite pour 75% des personnes interrogées, les commentaires blessants, le manque d'intérêt pour la vie de l'autre. Enfin, les personnes sans humour seraient un tue-l'amour pour
une c'est clair.
Oui, 50% des sondés ont évoqué ce sujet comme un motif de rupture. Et les causes les moins récurrentes sont la mauvaise communication, 40%, l'absence de stabilité professionnelle. Quand l'autre n'a pas d'emploi ou ne va pas dans son boulot, c'est 30% quand même, ça influe. Ou encore l'absence de relations familiales, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas la famille de l'autre. Donc,
ça c'est embêtant.
26% des cas de rupture. En tout cas, dans ce type de situation, tu l'as posé comme question, quand ce n'est plus possible, vraiment, comment se quitte-t-on? La plupart du temps, cela se fait quand même de vive voix. Mais les temps changent. Selon une étude réalisée par le site Date the UK, ce sont des internautes qui répondent, donc forcément, ça joue. 34% des personnes interrogées disent avoir déjà mis fin à une relation par message.
Sur
les réseaux sociaux, par exemple.
Oui.
8% par téléphone et 2% par SMS. 13%, et ça, ont même changé leur statut Facebook. De couple à célibataire, 13%, avant même d'avoir averti leur ex-moitié.
Ça, c'est extraordinaire. Alors, y a-t-il une bonne manière de rompre? Je vais commencer avec notre sage sur le plateau, Robert Sebag.
D'abord.
Vous devez être gentil, je le sens.
Non, mais.
Vous devez être pédagogue.
Quand des êtres se mettent ensemble, mariés, paxés ou union libre, c'est qu'ils se sont aimés. C'est qu'il y avait quelque chose de fort.
Bien sûr.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à la rupture, si vous voulez? C'est ça. C'est des gens qu'on a aimés. Donc, est-ce qu'on se connaissait pas assez? Est-ce qu'on n'a pas, on connaissait pas les travers de l'une ou de l'autre? Donc, déjà, ça, je trouve ça extrêmement triste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est l'absence de dialogue quelque part. Parce que je comprends qu'il puisse y avoir des, mais au moins, on se parle. Et donc, je m'aperçois que la venue des tablettes, des téléphones portables, j'observe parfois dans les restaurants, vous voyez des couples, ils sont chacun avec leur portable, ils ne se parlent pas. Vous croisez des gens dans des feux rouges, ils sont en voiture, le mari et la femme, le mari il est là au volant, il dit pas, il bouge pas, et la femme elle est là sur son portable. Donc si vous voulez cette absence de dialogue, après le deuxième point c'est le respect. Si on a été avec quelqu'un, c'est qu'on l'appréciait pour quelque chose, donc on peut le respecter. Après il peut y avoir des aléas de la vie. Vous avez des aléas dans la vie. Alors, il peut y avoir, effectivement, on peut rencontrer quelqu'un qui efface le premier amour qu'on y a eu. C'est l'infidélité. Mais à la rigueur, il faut être honnête. Il faut expliquer pourquoi. Alors, ça peut faire très, très mal. Moi, je suis très, très surpris, mais je découvre, par les chiffres de Rémi, la manière dont ça peut être fait par téléphone, par mail. Alors, si on n'est pas capable de le dire, quand vous parlez, si vous annoncez à votre bien-aimé ou à son bien-aimé, il faut pas l'accuser. Il faut pas dire c'est de ta faute parce que alors là c'est terminé. Vous allez culpabiliser l'un, vous allez pas culpabiliser l'autre.
Vous êtes très long comme ça quand vous rompez ou comment ça se passe?
Il développe alors. Vous pouvez l'écrire. Point numéro.
C'est bon, c'est réglé.
Après, vous pouvez l'écrire. Le problème, vous savez, c'est d'éviter l'humiliation. Parce que ça arrive de rompre, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'aime plus cette personne. Et lui dire que soit on a menti, soit qu'aujourd'hui, on ne ressent pas la même chose, ça peut être extrêmement humiliant. Donc, il faut trouver...
Il n'y a rien de pire aussi ce que commencer une rupture en disant... Tu es quelqu'un de formidable.
Oui, tu es trop bien pour moi.
Mais je veux pas te faire de mal. Enfin, il y a plein de choses.
Mais d'un autre côté,
attention à la culpabilisation, à la stigmatisation, parce que parfois, ça peut entraîner des gestes auxquels on ne s'attendait pas. Donc il faut être extrêmement prudent. C'est pas anodin, une rupture. N'est pas anodin.
Oui.
Je veux pas voir le taux de suicide.
C'est le sujet léger de l'émission.
On a choisi ce thème.
Oui.
C'est des 400 000 personnes.
D'accord.
Donc je veux dire, c'est pas anodin. Il y a un problème de société. Je m'arrête là.
Oui, voilà. Lumière, après, vous rompez comment, vous?
Alors moi, je suis plutôt la personne de l'autre côté. On a plutôt rompu avec moi.
Je peux pas le croire.
Je vous jure.
Ils ont rien compris.
Mais aujourd'hui, je suis très heureuse.
Est-ce qu'au moins ils sont élégants?
Ça dépend.
Ah.
Ça dépend. Mais du coup, j'ai pas mal d'expérience de la personne avec qui on a rompu.
La pire rupture, c'est quoi?
En fait, il y a pire rupture parce que j'étais la plus amoureuse. Ça n'a pas été la plus dégueulasse, ça a été la plus dure parce que c'était celle qui était la plus amoureuse.
Ouais, la pire, alors, en matière de forme, on va dire.
Ah, d'apprendre qu'il avait déjà une nana par son meilleur copain qui ne savait pas que
vous étiez ensemble.
Ah, ouais.
Oui, là, c'est moche.
Donc, ça, c'était moche.
Non, c'est moche, c'est vrai.
C'était moche, mais donc l'expérience que je peux, le retour d'expérience que je peux faire, si vous pensez à rompre avec la personne, c'est que je pense que la communication, c'est bien déjà en amont, parce que quand ça sort de nulle part, sans qu'on ait eu la chance de s'améliorer, de faire des ajustements, c'est dur quand même. Ce qui a été très dur souvent, c'était pas de réponse. Plein de questions et pas de réponse. Donc je pense que c'est sain de...
Mais est-ce que les hommes sont lâches?
Oui.
Alors, je pense que l'être humain est lâche.
Si, Robert. C'est vrai.
Je sais pas si c'est que l'homme qui est lâche. L'être humain est. Je connais des copines qui ont fait ça aussi, hein. Mais peut-être que les nanas, notamment parce qu'elles en parlent plus et parce qu'on communique plus avec nos copines ou quoi, sont plus alignées avec les raisons pour lesquelles elles font. Donc, elles peuvent l'expliquer. Parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui ne communiquent pas parce que c'est. Ils ont pas envie, mais parce qu'ils savent même pas forcément pour eux, au fond d'eux, pourquoi ils le font, et puis parce qu'ils ont pas l'habitude. Donc je dirais ça, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Et se rappeler pourquoi on a aimé l'autre et du coup le respecter.
Bien sûr.
Moi, j'ai une super technique. Vous êtes exécrable en espérant que l'autre prenne la décision. Ça, c'est vraiment pas mal.
Ça, c'est lâche.
Mais c'est pas mal. Fred Hermel, vous me regardez bizarrement.
Non, mais quand tu parles de la lâcheté des hommes, bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours une vie amoureuse. J'ai toujours une vie amoureuse instable. Donc, j'ai été beaucoup quitté, etc. Pas forcément des histoires très longues, mais bien entendu qu'on est lâche. Mais le comble de la lâcheté chez les hommes, c'est de dire oui, c'est de ma faute et tout. Enfin, c'est de s'accuser de tous les maux.
Tu me mérites pas.
Une semaine après, tu me vois main dans la main dans la rue avec
Je te mérite pas, c'est classique. Tu te mérites pas, sans moi, etc. Bien entendu que les hommes sont lâches, bien entendu. Non, mais après, il faut. Après, ça dépend du degré de l'histoire. Je veux dire, si c'est une histoire de quelques jours, semaines. Bon, il y a un truc très bien, c'est pas de pas répondre aux textos et tout ça. Donc
ça dépend le contexte. Il y a des enfants.
Attendez, excusez-moi. Vous venez de dire que ghoster, c'est-à-dire en fait.
Moi, il faut parler en français.
Bloquer des gens, ne pas leur répondre, c'est bien, mais vous êtes dingue, c'est le
mais
pire.
J'ai pas dit
ça.
C'est bien. J'ai dit c'est que c'est une manière de préparer l'autre quand les messages. Parce qu'au début.
C'est pas préparé, mais c'est le pire qui soit. C'est le symbole. C'est le symbole de la lâcheté.
Mais j'ai dit que les hommes étaient des lâches.
Je déteste les gens comme vous.
Mais non. Je t'explique. Au début, quand t'es amoureux, tu réponds tout de suite, etc. Et à un moment, quand tu commences à répondre un peu moins vite, la personne se rend compte. Quand on parlait de la préparation de truc, il faut que l'autre se rende compte aussi que voilà, c'est.
Voilà, oui, mais disons que
faire le mort tout
vous
suite,
êtes lâche et ça me déçoit beaucoup de vous.
Estelle,
très rapidement, Robert.
Vous avez une autre raison, c'est les problèmes sexuels. Pourquoi? Parce que là, vous remettez en question, si c'est le problème de l'homme, vous remettez en question sa masculinité. Si vous lui dites que le gars, il est pas bon, là, vous remettez en question. Et pour une femme, c'est pareil. Et souvent, si vous voulez, tout ça, faire un jeu de mots, c'est un cache-sexe. Dans le problème d'une rupture.
D'accord.
Et donc ça, il faut pas le nier. Mais souvent, on le met pas en première ligne parce que c'est extrêmement culpabilisant.
Alors, sachez qu'on a énormément de témoignages, là, au 32-16 et par message. Et énormément de témoignages féminins, ce qui n'est pas courant dans cette émission. Nous allons commencer avec Sonia qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Sonia.
Bonjour Sonia.
Ah, Sonia, vous êtes encore. Ah,
bonjour
Sonia.
Sonia est avec nous. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous, Sonia.
Oui, mais pardon ?
Merci d'être avec nous.
Et le sujet m'intéresse.
Ah, dites-nous tout.
Du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment utiliser la manière brutale. Parce que dans une séparation, il y a toujours quelqu'un qui est plus amoureux que l'autre. Je vais partir du principe que quand on s'est connus jeunes et qu'on a passé de nombreuses années ensemble, on finit par s'éloigner l'un de l'autre. Et la façon brutale marque la fin de l'histoire. C'est pas la pire des façons de quitter ou d'être quitté dans un couple. Je pense que la pire des façons, c'est le ghosting. C'est du jour au lendemain de plus donner de nouvelles, de pas savoir, de pas être au courant. La manière douce, ça entretient quelque chose qui pourrait revenir.
Vous avez raison.
Le but, c'est pas d'être méchante. Le but, c'est de dire c'est fini.
D'être ferme.
On prend chacun nos vies différentes et on avance. Ça n'empêche pas qu'on peut rester copains, mais je pense qu'il faut être brutal dans une séparation et pas entretenir quelque chose qu'il n'y a plus, en fait.
Mais même pas faire un peu de préparation quand même,
mais
d'un
coup. Mais non, parce qu'on
n'est jamais préparé à ça. On n'est jamais préparé à ça quand ça arrive et qu'on dit, les années passent vite. Hein. Moi, j'ai 48 ans.
Vous êtes jeune.
J'ai pas envie d'être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un. Donc, à un moment, faut penser à soi aussi. Alors, c'est pas être méchante. Hein. Je tiens quand même.
Non, c'est d'être cash.
Voilà, faut être cash. Faut dire les choses. Et c'est la communication. Alors, oui, ça peut être brutal, mais dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre.
Vous n'avez pas peur de faire mal, Sonia?
Le but, c'est pas de faire mal. Le but, c'est
pas
laisser l'autre personne s'accrocher à quelque chose qui n'existe plus, en fait. Et lui permettre aussi d'avancer et de tourner la page, non?
C'est vrai. Oui, mais ça c'est votre point de vue, Sonia, c'est intéressant. Voilà. Oui. En fait, si tu laisses de l'espoir, mais c'est pire que tout.
Ah, mais c'est horrible, ça.
Mais ça, c'est l'apanage des lâches, comme Fred Hermel, par exemple. Sonia n'est pas du tout comme ça. Merci, Sonia, d'avoir été avec nous sur RMC. Notre invitée sur ce débat, et je l'adore, je suis tellement contente, c'est la psychologue et psychothérapeute Véronique Cohn, spécialiste de la relation amoureuse. Bonjour, Véronique.
Bonjour,
Véronique.
Et quel plaisir de vous avoir à nouveau avec nous, Véronique. Bon, la question du jour, elle est simple. Est-ce qu'il y a une bonne manière de rompre?
Oui, vous l'avez traité, hein, c'est-à-dire effectivement en mettant en place un dialogue, une communication où chacun des deux partenaires peut s'exprimer idéalement. Et moi, je voudrais interroger la question de la lâcheté, puisque c'est ça dont on parle là depuis tout à l'heure, et de voir quel est le mécanisme derrière. La lâcheté qui consiste à ne pas pouvoir, à qu'un des partenaires en général, celui qui a vraiment un poids sur la conscience et qui est celui qui a envie de rompre en fait, hein, et qui a pas envie de se manifester pour expliquer les motifs, et ben celui-là, si on se met dans sa peau, ou si vous l'avez vous-même vécu, c'est souvent il y a une culpabilité, je pense, qui apparaît, qui est je me sens j'ai envie de me protéger, de la protéger ou de le protéger, ça peut être un homme ou une femme, c'est-à-dire de pas le blesser trop, et pour ce fait je me sens pas très au clair, souvent la personne n'est même pas très au clair sur les vrais motifs. Quels sont les vrais problèmes? Souvent, c'est je l'aime et je l'aime plus, mais on sait pas trop pourquoi. En fait, c'est parce qu'elle répondait plus à mes besoins, donc je l'aime plus. Il y a des formes de zones aveugles là-dessus. Et la lâcheté, pour moi, c'est probablement pour me protéger, pour la protéger, pour protéger notre relation de tout le bon qu'on a vécu ensemble. Mais il y a un truc qui est de l'ordre, je vais éviter de parler, d'être en lien, de terminer une gestalt achevée, c'est-à-dire de boucler, de terminer une boucle relationnelle. Parce que j'ai tellement peur d'être pas à la hauteur, je me culpabilise, j'ai honte quelque part, que je vais créer de l'évitement. C'est la coupure, c'est en fait. Ça. La coupure, c'est la rupture du lien. Et cette rupture du lien, elle est hyper difficile pour celui qui est attaché, en fait. Parce que lui, comme on l'a vu, ou elle, comprend pas, elle se dit mais c'est violent, pourquoi il me parle même pas, pourquoi il explique pas. Et la personne qui est en prise avec ça, souvent, elle a envie de se désengager, mais pas en prenant la responsabilité émotionnelle et de ses actes, et elle n'a pas envie de passer pour un méchant ou une méchante. Et c'est souvent ça le truc.
Alors restez avec nous, Véronique, parce qu'on a beaucoup de témoignages, de messages également, Rémi.
Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Il y a Ghislaine qui nous dit notamment sur Direct Studio, la pire manière de rompre, c'est celui, car ce sont les hommes qui le font, et c'est de partir sans rien dire en laissant ses affaires. Celui qui est quitté ne croit pas à la rupture et espère toujours un retour.
Le mec a laissé ses affaires.
Non, mais laissant quelques. Tu vois, il laisse quelques affaires et ça dure des semaines et des semaines. On se dit toujours.
Ah ouais, il va revenir. Oui, s'il a laissé sa brosse à dents, c'est qu'il va revenir.
Non, mais c'est ça. Il a laissé quelques vestes, quelques chemises. C'est que peut-être qu'il n'est pas totalement parti.
C'est terrible. Ça se passe pas bien.
Laurie nous dit, un homme m'a enlevé de Facebook, bloqué, enlevé le statut en couple. J'ai compris toute seule qu'on n'était plus ensemble. Quand j'ai essayé de le joindre, je tombais directement sur son répondeur. Il avait seulement bloqué mon numéro aussi. J'ai vraiment pris ça pour un manque de respect. Pour cause. Et ça a même un nom, hein, c'est le ghosting. Du jour au lendemain, pas d'explication, on bloque tout et on
bloque. Ah ouais, bah non, ça.
C'est bizarre, mais on a que des témoignages féminins. C'est quand même incroyable sur ce sujet. On a Laetitia, tiens, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et vous, ça s'est pas très bien passé, votre rupture, Laetitia?
Alors, ça s'est bien passé. Alors, une rupture, pour moi, ça... Moi, j'ai voulu adopter la manière douce, mais ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Mes enfants étaient... elle était toute petite, elle avait quelques mois, et le plus grand, moins de 10 ans. Donc, c'était... assez compliqué au départ. Il m'a demandé du temps en fait dans la réflexion et il m'a demandé 4 mois en fait après lui avoir annoncé que je souhaitais arrêter notre relation. Mm-hmm. Et donc c'était quand même une relation de 13 ans et donc j'ai accepté. On a été avoir un petit de couple mais ça n'a pas en fait abouti de mon côté. Pour lui, il n'y avait aucun problème. Et on n'est pas arrivé en fait à déceler vraiment les problèmes. Et alors une fois que j'ai donné ma décision ferme et définitive, mais tout en douceur, là ça a été beaucoup de colère de sa part. Et pour moi, une rupture, il y a 3 étapes. Il y a la colère, la rancœur et ensuite il y a le deuil. Et vraiment, ça a été très difficile. J'ai essayé vraiment de mettre mon mouchoir sur beaucoup de choses parce que pour mes enfants, quitte à en souffrir énormément, mais je pense que ces étapes, elles sont obligatoires dans une séparation.
Et aujourd'hui, ça va mieux ?
Oui, aujourd'hui, il a refait sa vie un an après notre séparation. Il s'est marié, il va être papa.
Ah oui.
Et aujourd'hui, on fête les anniversaires de nos enfants ensemble. Enfin, tout se passe bien. Il a une compagne qui s'occupe bien de mes enfants et avec qui ça se passe bien. Et puis même, on a même gardé un compte joint depuis notre séparation pour gérer les dépenses des enfants.
Enfants
en fait, tout se passe bien. Mais le message que je veux passer, c'est que parfois, on subit un petit peu des méchancetés, des choses, mais on le fait pas pour rien, en fait, ça. Le fait de prendre sur soi, moi, mon but, c'était que mes enfants ils soient équilibrés.
Bien
et
sûr.
Aujourd'hui, ils le sont complètement. Complètement.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Laetitia, je reviens vers vous. Véronique Cohn, oui. Tout d'abord, est-ce que quand on rompt avec quelqu'un, il faut tout dire ?
Alors, je ne sais pas s'il faut tout dire. En tout cas, donner les motifs.
Non, mais genre l'infidélité, par exemple. Est-ce qu'il y a besoin de dire ?
Oui, quand même.
Bon,
oui,
écoute, j'ai oublié de te dire, je t'ai trompé, quoi.
Ouais, ça c'est quand même parce que on trompe pas par hasard, on trompe parce qu'on se sent pas vivant, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on attendait autre chose. C'est donc vrai. Oui, c'est quand même important d'expliciter ce qu'il y a derrière ces histoires d'infidélité. Il y a pas que le symptôme, c'est l'apparence, mais derrière, il y a des choses qui sont en amont de cette histoire d'infidélité pure et simple.
Donc ça, on le dit.
Ça serait bien quand même d'expliciter les vraies raisons en fait, ce qui a fait que au départ c'était je t'aime, puis après d'un coup je t'aime plus, et en fait il y a pas d'histoire, le mot amour est très mal utilisé, ça veut rien dire du tout. C'est tu réponds à mes besoins, tu réponds, je t'aime, je suis comblé, je suis plein, je t'aime. Tu réponds plus à mes besoins depuis X temps parce que c'est pas juste l'infidélité. L'infidélité c'est après les insatisfactions, les frustrations, les carences, etc. Les non-réponses aux besoins, et après il y a le symptôme de la fidélité qui est un passage à l'acte. Mais donc c'est pour ça que dire je suis infidèle, d'accord, mais derrière ça suffit pas, c'est tout ce qui n'a pas été dit avant, quoi. Et souvent les gens sont pas au clair sur tout ce qui a été non satisfait, ils n'ont pas osé tout dire. Et je voudrais revenir sur l'histoire du moment de la rupture, quand il y en a un qui rompt brutalement et vraiment mais de manière violente comme ça, en bloquant, en disant pas rien.
C'est horrible.
Celle qui subit ça, ou celui, parce que des fois des hommes ou des femmes, plutôt souvent des femmes, mais ça peut être des hommes. Et donc celui qui subit ça, qui se dit dans sa tête, il ne me respecte pas, elle ne me respecte pas, et qui peut mettre une énergie considérable sur cette phrase, qui est passer du temps sur donc la colère, qui est aussi une manière de gérer un deuil. Je vais passer par la colère et le ressentiment pour pouvoir faire un deuil. Mais c'est pas la peine de s'embourber, à mon sens, dans il ne me respecte pas pendant 107 ans, parce que la question qui va se poser, c'est je ne me respecte pas en mettant beaucoup d'attention sur celui qui ne me veut plus, qui me rejette.
Bien sûr.
Fait.
Ah oui.
Ouais, parfois, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous êtes blessé.
C'est parce que ça, c'est les faits. Les faits, c'est qu'il est parti et qu'en plus, il ne veut pas communiquer plus que ça.
Oui.
Donc, à moi de reprendre ma responsabilité, mon pouvoir, pour arrêter de mettre de l'énergie sur l'autre ou sur la relation.
C'est bien dit ça,
parce que ça, c'est un état de fait, c'est comme ça. Je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, je n'ai pas le contrôle sur l'autre, qu'il revienne ou qu'il parle ou qu'il fasse autrement. Il est comme il est. Par contre, le seul pouvoir que j'ai, encore minimaliste, mais quand même, c'est sur moi. Donc, qu'est-ce qui dépend de moi ? C'est de me respecter en arrêtant de mettre de l'intérêt sur il ne me respecte pas, il devrait pas. Parce que là, je me bouffe le sang, quoi.
Ça, c'est sûr. On va terminer avec Sébastien qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. C'est le premier garçon sur ce sujet. D'habitude, c'est que les femmes là, qui nous appellent, Sébastien, bizarrement.
Oui, j'ai vu ça. Bonjour à tous.
Bonjour Sébastien.
Alors, écoutez, moi, effectivement, c'est comme je disais à votre standardiste, moi, c'est moi qui étais le précurseur et qui suis parti en premier. Mm-hmm. Mais en posant carte sur table, en étant honnête, et j'ai essayé surtout d'être le plus classe possible, en disant, c'est moi qui pars, donc je laisse la maison, je laisse la voiture et tout le mobilier, et puis on voit d'ici quelques temps. Et en fait, j'écoutais tout à l'heure aussi la personne qui intervenait, qui parlait de colère et de rancœur. Mmh. Et aujourd'hui, moi, dans mon cas perso, ce n'est que de la rancœur, puisqu'il a fallu que je fasse deux procédures. Une première procédure pour obtenir la garde alternée de mes enfants, donc qui a duré 2 ans. Ouais. Et puis là, une deuxième procédure aussi pour obtenir la vente de la maison, puisqu'aujourd'hui, mon ex habite toujours la maison et je continue en plus de payer un crédit.
Ouais, donc ça s'est mal passé, quoi.
Ça s'est malheureusement très mal passé, alors que voilà, j'ai mis les formes, j'ai essayé de tout faire, effectivement, pour que ça se passe bien, mais... le sentiment de rancœur vraiment que vous parliez tout à l'heure, c'est ce que je vis, c'est le sentiment que j'ai.
Oui, mais est-ce que vous avez été infidèle, Sébastien? Ça a du mal à passer, vous voyez?
Non, jamais.
Ah, c'est bizarre.
J'ai même pas été infidèle. C'est sûr. C'est surtout que voilà, depuis quelques années, ça marchait plus. On allait plus ensemble. Il y avait moins d'atomes crochus. Et qu'à un moment donné, passé 40 ans, c'était un peu une deuxième vie qui commence. En parallèle, j'ai monté ma boîte et donc je me suis dit voilà, ça peut plus, on peut plus
continuer
comme ça, être malheureux et voilà. Donc mais c'est vrai que c'est assez complexe du coup, parce qu'on a le sentiment d'un côté de pas avoir fait des choses sales, d'avoir été propre,
ouais, d'avoir fait les choses bien même, ouais,
et d'avoir fait les choses bien, et puis il y a le sentiment aussi de la justice qui n'avance pas, donc c'est pas forcément effectivement évident.
Oui, c'est ça, la rupture, elle n'est pas facile à vivre parfois dans les deux cas, même quand on est celui qui rompt. Merci beaucoup en tout cas, Sébastien, pour ce témoignage. Dernière question, Véronique Cohn, assez rapidement, on attend combien de temps avant de rompre? C'est-à-dire que, est-ce que voilà, quand ça ne va pas, on rompt tout de suite, ou est-ce qu'on attend que ça se délite, on attend le dernier moment? Comment ça se passe?
Ça dépend des cas, mais c'est mieux d'éviter de rompre brutalement, parce qu'en général, quand on rompt brutalement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a des zones aveugles, des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas osé dire, on s'est adapté, on a fait des compromis, etc. Donc, non, il faut mieux prendre un peu de distance pour remettre ce qu'on appelle, nous, l'adulte aux commandes, c'est-à-dire la partie qui traite les informations avec plus d'objectivité,
d'accord,
et essaye de voir quels ont été les problèmes, en fait, inhérents à la relation, et puis de les poser en tant qu'adulte avec un autre adulte en face, quoi. Mais pas comme ça, sous un coup de chaud, une crise, émotionnellement, c'est des débordements émotionnels. Dans trop d'émotionnel, on n'y voit pas clair. Donc,
d'accord,
c'est bien de prendre un peu de distance quand même, de réfléchir, de mettre un peu de raison et de réflexion, et puis ensuite de communiquer. On l'a dit, la communication, c'est un peu idyllique. Après, il y en a qui sont débordés par leurs émotions, qui ne voient pas clair du tout, c'est du jus de chaussette. Du coup, ils rompent en veux-tu, en voilà, avec ce qu'on a vu, la lâcheté, la culpabilité, le désinvestissement brutal. Et voilà, quoi. Donc après, moi je mets pas la pierre sur les personnes qui font ça, parce qu'elles sont pas du tout au fait du conflit entre plusieurs parties entre elles à l'intérieur d'elles. Il y a un conflit intérieur et elles s'en rendent même pas compte. Voilà.
Alors Robert Sebag, une question, mais c'est 10 secondes.
Je veux dire attention à la problème d'infidélité. Parce que dans une vie de couple qui peut être extrêmement longue, on peut avoir des crises et il y a un moment, on peut aller voir ailleurs et on peut surmonter. Je veux dire, l'infidélité n'est pas toujours symptôme de crise. On peut surmonter, dialoguer et pardonner, entre guillemets.
Le sourire de Robert, je ne dirai rien. Merci Véronique Cohn, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce dossier. On va dire, on aurait pu en parler des heures. Hein. Là, j'ai l'impression que tout le monde a envie de raconter ses propres expériences.
Est-ce que je peux juste recommander 3 livres sur le sujet.
Alors, rapide, là.
Ouais.
On est très
Rupture de Claire Marin, Lait et miel de Roupie Kaur et Réinventer l'amour de Mona Chollet. Moi, ça m'a vachement aidé pendant mes ruptures.
Ah, vous l'avez lu pour surmonter une rupture?
Oui.
Ah oui. Bah, je n'y ai pas pensé, mais maintenant que vous le dites. c'est à faire. Et merci pour ces conseils lecture. Y a-t-il une bonne manière de rompre? C'est la question que vous a posée sur notre compte Twitter, Rémi.
Bah, non. C'est non.
On sent le vécu, hein.
Non. Mais c'est
vous
le
avez
non.
Même pas dit manière douce, manière forte.
Non, c'est non à 60%. Pour 60% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
On n'a pas très bien posé la question.